Radio, la plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débattre ton permis, ton vol volé et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une machine dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est ta mise en faux.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez pas.
Tout.
Attends, paniquez pas.
Et oui.
Un écho de bâtard. C'est incroyable.
Vous m'avez dit
c'est le
Canu
Info du vendredi, car c'est la journée mondiale des infos du vendredi. Et donc, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui?
Eh ben, on va commencer par vous parler de local avec un communiqué du DAL, le droit au logement, suite à des menaces d'expulsion bien dégueulasses à Rieux-la-Pape.
Ensuite, on ira dans l'international et on vous parlera des chômeurs qui pourraient recevoir des injections pour perdre du poids, figurez-vous, afin de retourner au travail.
Après, on va parler des ouvriers et ouvrières de Boeing qui votent la fin de leur grève contre 38% d'augmentation salariale.
Ça, c'est la bonne nouvelle des États-Unis. La mauvaise nouvelle, c'est Donald Trump ou le triomphe des hommes blancs.
Et puis, au national, mais surtout la fameuse rubrique nucléaire du vendredi, on vous donnera des news de l'EPR, on imagine qu'il ne marche pas.
Il marche mal. Ouais, des petites news de notre fameuse divergence. Ensuite, on vous parlera de bagnole, avec évidemment, quand il y a un homme au volant, c'est la mort au tournant.
Après, on va parler de santé et on va faire une petite une comparaison.
On va parler de ces comparaisons.
On va comparer le Covid et le sida, mutualiser les luttes pour la santé publique.
Tout à fait. Ensuite, peut-être qu'on trouvera des animaux qui font du bruit, ça s'appelle des nuisibles, dans nos micros. Et il y a un agenda.
Oui. Et il y a un agenda qu'on vous lira. Et puis, quand on aura lu l'agenda, on aura le temps de prendre tous vos appels. Tous vos appels pour nous dire qu'est-ce que ça veut dire ACAB. Et vous pouvez, comme chaque semaine, inonder le standard de Radio Canu en appelant au 04 78 39 18 et 15. Voilà, bonne écoute.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon. Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, on chanterait.
Et oui, on chante, on résiste, et en tout cas, il va falloir résister encore et toujours, parce que peut-être vous l'avez su ou pas, il y a eu un peu du zbeul. C'était en fin de semaine dernière, et Rieux-la-Pape, il y a des bagnoles qui ont cramé, des bus, je crois, qui ont été attaqués aussi. Devinez quoi, ça n'a pas du tout plu au maire Horizon Alexandre Vincendet, qui a menacé de couper les aides municipales aux familles des jeunes qui ont été interpellés et convoqué les bailleurs sociaux pour leur demander de rompre le bail locatif de leur famille. Donc c'est le communiqué du DAL qui nous dit qu'il reprend ici une idée déjà bien avancée par l'ex-ministre du Logement, actuel ministre de la Fonction Publique et au demeurant une personne bien plus que détestable, Guillaume Kasbarian, au printemps dernier. Le droit au logement 69 dénonce ces menaces qui, si elles étaient mises à exécution, auraient pour conséquence l'expulsion de familles entières, rétablissant ainsi une pratique archaïque, le châtiment collectif. Il s'agit en effet de punir un groupe de personnes rattachées par des liens familiaux pour une infraction commise par l'une d'entre elles. En théorie, un État de droit démocratique se doit pourtant de respecter le principe fondamental de la responsabilité individuelle. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 121.1 du Code pénal. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le principe d'individualisation des peines est également reconnu par le Conseil constitutionnel sur la base de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le droit international humanitaire. Alors comment expliquer une telle surenchère répressive ? Pourquoi s'acharner ainsi sur des familles locataires de HLM ? La punition collective, si elle est proscrite dans la loi, reste une pratique récurrente dans la relation qu'entretient l'État avec les quartiers populaires. L'idée de rendre responsables les familles de personnes accusées d'avoir commis un délit est un vieux fantasme de la droite. En 2022, déjà, l'ex-ministre de l'Intérieur Darmanin indiquait vouloir la généralisation des expulsions des familles à problème. Depuis les émeutes consécutives à la mort de Naël en juin 2023, l'État et les mairies de droite se montrent volontaristes pour tenter de mettre en œuvre ce fantasme. Plutôt de s'attaquer aux causes structurelles de la violence, la précarité et les discriminations racistes, les pouvoirs politiques font le choix de la solution sécuritaire et répressive en stigmatisant toujours les mêmes populations issues des quartiers populaires. En faisant ce choix, ils font avancer les idées d'une extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Nous dénoncerons ce coup de communication politique réactionnaire qui ne réglera aucun problème et ne fera que mettre de nouvelles familles à la rue dans une agglomération qui en compte déjà beaucoup trop. Au moins 316 enfants, dont 33 bébés, sont sans solution d'hébergement. On peut rappeler, il y a plus de 14 000 personnes, ce qui est le plus haut chiffre qu'on ait jamais atteint, qui ont une demande d'hébergement en cours à la maison de la veille sociale. Toute expulsion locative est une violence sociale injuste et inutile. Le logement est un droit fondamental et ne doit en aucun cas être utilisé comme instrument de pression et de sanction. C'est la fin du communiqué. Et du coup, on pourrait rajouter qu'en plus de ça, depuis quand est-ce que, en fait, mettre une personne à la rue, puisque c'est ça, hein, quand même, expulser les gens de leur logement, ça consiste à les mettre à la rue. Depuis quand est-ce que, finalement, c'est une sanction ? A priori, la loi, aussi mal foutue qu'elle soit, elle prévoit globalement des amendes, des peines de prison et éventuellement deux, trois autres petits trucs. Mais que là, on voit quand même la volonté, évidemment, de cibler des groupes tout entiers et de mettre toute une famille à la rue parce qu'une personne aurait fait quelque chose en dehors du cadre de la loi. Mais en plus, surtout, une nouvelle forme de sanction qui dit « Eh ben, si t'es pas gentil, tu dors à la rue. » Et ça, c'est vraiment déjà complètement débile parce qu'on sait que la rue, c'est aussi un endroit où, en fait, les gens sont dans la merde et finissent par aller en tôle et ressortir de tôle. Et on connaît tous ces schémas de gens qui font des petites mènes, qui ressortent, bah, en fait, personne ne s'est préoccupé de savoir où ils allaient vite, qu'ils sont à la rue, du coup, ils sont dans la merde, du coup, ils refont des conneries, du coup, ils retournent en tôle, etc., etc. Et par ailleurs, une fois encore, le logement, c'est un droit, c'est une question de dignité. À aucun moment, on peut envisager que ce soit une punition pour quoi que ce soit de dire, si tu respectes pas ce cadre-là, tu vas à la rue. C'est complètement irrecevable et effectivement, comme le dit bien le communiqué du DAL, c'est malheureusement de plus en plus dans les esprits de tous les fachos qui nous entoure, que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée et malheureusement aussi dans les communes et les autres collectivités territoriales.
Canu Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et oui, maintenant, on va aller en Royaume-Uni, on va parler de santé avec des énormes guillemets, on va parler de grosses conneries plutôt. Parce qu'il se passe quoi là-bas ? Qu'il y a des nouvelles injections pour perdre du poids qui pourraient être administrées aux chômeurs et aux chômeuses pour les aider à retourner au travail. Et ça, c'est une suggestion de Wes Streeting, qui est le secrétaire d'État à la santé et à la protection sociale. C'est une vraie info que j'ai trouvée sur The Guardian. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des trucs un peu mal traduits parce que Google Traduction m'a traduit pour moi, mais après j'ai pas trop réfléchi. Enfin, voilà. tout ça pour et le ministère de la Santé a déclaré que les entre guillemets ceintures élargies, donc typiquement il y a peut-être un truc de traduction que j'ai mal fait, en tout cas bah bonjour la grossophobie dans cette déclaration. Ouais. Donc il y avait un truc avec Berthe, je sais pas quoi. Que donc ces ceintures élargies faisaient peser un fardeau sur le NHS, le National Health Service. Donc la dernière génération de médicaments pour perdre du poids impliquant des médicaments tels que les sémaglutides ou les thyrzépatides, je ne sais pas bien ce que c'est, mais pourraient être administrés aux personnes afin de les remettre au travail et de réduire les coûts pour le service de santé, parce que c'est ça qui est important dans l'histoire. La suggestion de West Treating dans le Télégraphe intervient alors que le gouvernement a annoncé en même temps un investissement de 279 millions de livres sterling dans une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde qui s'appelle Lilly. Le jour où le Premier ministre a accueilli un sommet international sur l'investissement. Donc les plans annoncés ce jour-là lors du sommet comprendront des essais en conditions réelles sur de l'impact sur le chômage de ces injections pour perdre du poids. Et il y aura une étude qui sera menée par Health Innovation Manchester et Lilly, qui donc la société aussi. Et ça examinera si le fait de prescrire ces médicaments, ça réduira le chômage ou pas, et l'impact sur l'utilisation des services du National Health Service, et se déroulera dans le Grand Manchester. Le ministre, il a écrit que, donc encore une fois, l'élargissement de nos ceintures, donc voilà, représente également un fardeau important pour notre service de santé, parce que ça coûte de l'argent. Donc lui, il a dit que ça coûtait 11 milliards de livres sterling par an, nanana, encore plus que le tabagisme, et que ça freine l'économie, et que les maladies causées par l'obésité, ça oblige les gens à prendre des jours de congé, quand même, faut pas exagérer, et qu'il y en a même qui sont contraints de cesser le travail. Voilà, et il y a eu donc aussi le Premier ministre Keir Starmer qui est intervenu à la BBC et qui a dit que lui aussi pensait que ces médicaments pourraient être très importants pour l'économie et pour la santé. Il a ajouté que ce serait très utile aux gens qui veulent perdre du poids, qui en ont besoin, parce que l'économie, blablabla, retourne au travail, tout ça. Et parce que oui, les gens, ils coûtent de l'argent et qu'on doit lutter contre l'obésité. Voilà, ils ont dit plein de choses horribles comme ça. Selon eux, les avantages sur le long terme, ça ferait que il y aurait plein de. Je redis en boucle ce qu'il a dit, quoi. Que, en gros, il fallait faire ça pour l'économie et tout ça. Mais par contre, il a absolument jamais parlé de la santé des gens.
C'est complètement dingue en plus, parce qu'on sait que ces traitements, ils ont des effets secondaires absolument délétères, par ailleurs.
Oui. Puis en plus, on peut avoir confiance dans les prochains tests, parce que ce sera mené par le labo dans lequel il y a eu 2 milliards.
Ils seront certainement très sérieux.
Voilà.
Et ça, c'est en parallèle de mesures pour permettre un accès à de la nourriture saine et peu chère à qui le voudrait, évidemment.
Bah oui. Oui, parce qu'il a quand même dit aux gens, il faut arrêter d'avoir des modes de vie malsains parce que ça coûte de l'argent à la sécurité sociale. Et t'es ok, d'accord. Merci.
Arrêtez d'être pauvres.
Vous arrêtez d'être pauvres, mangez bien, faites du sport. Et puis sinon, on va vous injecter des trucs parce que quand même, il faut aller au travail, il faut pas être trop en congé et tout, quoi. Il faut pas être en mauvaise santé. Enfin, c'est dégueulasse. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire. Quoique vraiment, nous on aimerait plutôt que tout le monde ait accès aux soins et des modes de vie qui permettent aux gens d'être bien et pas que ce soit en fonction des valeurs économiques potentielles et je sais pas, en étant examiné, en plus c'est trop bizarre, voilà. Comme contrôle des corps et voilà.
Eh ben, voler bien, voler bio, mais il y en a qui volent moins, et là, attention, le jeu de mots est extraordinaire. C'était les ouvriers de chez Boeing qui étaient en... Well, jingle. Les ouvrières de chez Boeing étaient en grève. Ça faisait... J'ai oublié de noter, mais ça faisait un beau moment en fait qu'ils faisaient le bras de fer cette semaine. Voilà, cette semaine de grève. Et là, ils viennent de voter donc à 59% la fin de la grève. Alors bon, des fois les fins de grève, c'est un peu, on trouve ça des fois un peu nul, mais là quand même, ils ont plutôt gagné des trucs puisque finalement ils lèvent la grève après avoir obtenu quand même une augmentation de salaire de 38% sur 4 ans, dont 13% qui tombent là tout de suite dès la fin de la grève. Par ailleurs, la direction, et ça j'ai trouvé ça un peu sympa quand même d'aller raté ça, une prime de ratification de l'accord. Donc en gros, ils ont fait la grève et ils ont dit, eh ben, si vous vous donnez ce qu'on veut, et en plus si vous signez le papier, vous lâchez de la thune, et on est quand même sur la modique somme de 12 000 $ par salarié qui va être touché, puisque Boeing du coup a accepté de ratifier le truc. Alors bon, il y a quand même un petit point un peu moins sympa, c'est que finalement la grève elle s'arrête, mais dans les revendications il y avait le rétablissement du régime de retraite à prestations définies. Alors ça, en gros, il faut comprendre, les retraites c'est vachement géré des investissements dans les fonds de pension aux États-Unis, et du coup cette forme de retraite à prestations définies, c'était que quel que soit le rendement du fonds de pension, il y avait en fait un versement minimum garanti par l'entreprise, du coup en l'occurrence Boeing. Bon bah ça, ils n'ont pas réussi à le gratter, et c'est ce qui explique qu'il y a quand même 41% des 33 000 grévistes qui n'ont pas voté en faveur de la reprise du travail. Mais pareil, on peut aussi quand même s'interroger sur quand même, qu'est-ce qui s'est passé à Boeing. Alors je sais peut-être vous suivez ou pas trop, en tout cas on voit régulièrement, moi je vois régulièrement dans des fils d'infos comme ça, oui, problème avec tel avion Boeing, tous les modèles sont au sol, sont cloués au sol, etc. Problème sur une autre machine, hop, encore des avions cloués au sol, et en fait la fiabilité de Boeing est devenue complètement naze. Or quand même dans l'aviation, c'est pas un élément trop anodin le fait que l'avion risque pas de s'écraser, parce que en général ça pardonne pas trop. Et en fait il y a plusieurs papiers qui sont sortis ces derniers mois en fait sur la gestion qui est vraiment la gestion capitaliste de base de merde de Boeing, qui faisait bon des avions Boeing on va pas leur jeter des fleurs, mais au moins ils faisaient des avions qui volaient correctement et qui se crachaient pas, ce qui était déjà pas si mal. Mais finalement, à grand coup de réduction de budget, en gros ils ont viré tous les gens qui avaient du savoir-faire dans l'entreprise, donc tous les anciens, parce que les anciens coûtaient plus cher que des petits jeunes qui pouvaient recruter pour moins cher, mais qui avaient du savoir-faire. Ils ont dit oui, quand même les ingénieurs ça coûte cher, il y en a trop, du coup on garde que ceux qui sont capables de créer les trucs, mais en fait toutes les personnes par exemple qui travaillaient sur la fiabilité des pièces et la fiabilité des chaînes de production se sont fait plus ou moins dégager. Ils ont remplacé du coup la moitié des ingénieurs en fait par effectivement des gens moins qualifiés qui participaient à la production, mais pas du tout à la conception ou à la vérification des pièces. Ce qui fait que finalement maintenant ils se retrouvent en plus dans la merde complètement, parce que plus personne veut acheter ces avions, parce qu'en fait ils sont complètement pourris et ils sont particulièrement dangereux. Et alors bon, une fois encore, c'est pas des logiques humanistes hein, qui tiennent tout ça, c'est des logiques économiques de si ma compagnie aérienne se crache avec un avion Boeing parce que l'avion Boeing est mal foutu, même si c'est la faute de l'avion, ma compagnie aérienne elle est mal vue, elle perd des sous, etc. N'empêche qu'on voit quand même le résultat de ce truc-là, ça a été un appauvrissement considérable des salariés, de moins en moins de salariés, de moins en moins qualifiés, de moins en moins payés. Une boîte qui est complètement à la rue et qui en fait produit de la merde. Et par ailleurs quand même, eh ben, y a les 33 000 ouvriers, ce qui est quand même vraiment pas rien, de 33 000 qui se mettent en grève et qui arrivent à gagner quelque chose, et ça c'est quand même toujours très cool.
Depuis le début de la semaine, enfin bon, comment ne pas en parler, mais du coup on va parler de Donald Trump. Parce que le camp trumpiste, voilà, des gestes dans le non seulement a remporté les élections à la Maison Blanche, mais également le Sénat et probablement la Chambre des représentants. Ces victoires, ajoutées à la mainmise des Républicains sur la Cour suprême, vont certainement laisser le champ libre à Donald Trump pour mettre en place son projet 2025, qui est un programme d'extrême droite. Défense des frontières, retour à un modèle de famille traditionnelle, démantèlement de l'État, etc. Son élection met en danger la vie les droits des personnes racisées, en particulier les personnes immigrées entrées illégalement sur le territoire, mais aussi des personnes trans et des femmes. La victoire de Trump est évidemment une énorme catastrophe. On est allé lire un article d'un journal qui s'appelle La Déferlante, qui est une revue féministe, et puis dans cette revue il y avait ces petites informations qu'on va relayer là. Selon Charlotte Recoquillon, qui est une journaliste et chercheuse à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de la communauté noire aux États-Unis, ces résultats confirment une lame de fond. Le vote conservateur et d'extrême droite aux États-Unis s'enracine dans des crises économiques, sanitaires et identitaires profondes. Déjà, lors de la présidentielle de 2020, alors même que Trump l'a finalement perdu, la stratégie de mobilisation derrière le slogan « Make America Great Again », qui consistait à agiter les peurs et à jouer sur les menaces extérieures, a fonctionné et permis de gagner plus de 10 millions de votes par rapport au 2016. Parce que tout ça, ça marche très bien avec les hommes blancs qui, selon les sondages à la sortie des urnes, ont voté Trump à 60% quand même. Kamala Harris, la candidate démocrate, a fait du droit à l'avortement le pivot de sa campagne, et en parallèle elle a mis en avant une féminité décomplexée. Donc on se demande un peu quel est le rôle les questions de genre ont pu jouer dans cette élection. L'annulation en 2022 sous l'administration Biden de l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement dans l'ensemble des États-Unis découle du premier mandat de Donald Trump. Et malgré l'existence d'une frange anti-avortement parmi les conservateurs et conservatrices, la majorité des femmes républicaines reste attachée au droit des personnes à disposer de leur corps. Ce sont ces électrices que les démocrates ont tenté de convertir pendant la campagne. Mais les personnes qui souffrent de l'interdiction d'avorter sont principalement aujourd'hui des femmes noires et pauvres qui vivent dans d'anciens états esclavagistes du Sud, à l'intersection de plusieurs discriminations. Comme lors des précédents scrutins, ces femmes ont donné leur soutien au Parti démocrate. À l'échelle du pays, les africaines-américaines sont 91% à avoir voté pour Kamala Harris. En ce qui concerne le vote pour Trump d'hommes noirs et latinos, des sondages de sortie des urnes montrent que le vote démocrate dans la communauté africaine-américaine a baissé de 11 points pour les hommes et de 5 points pour les femmes entre 2016 et 2024. Un nombre non négligeable d'hommes noirs, 21%, semble avoir voté pour Trump. Les démocrates ont considéré à tort qu'il s'agissait d'un électorat captif et homogène, sans véritablement proposer de mesures qui répondent à leurs revendications, notamment on pense à la lutte contre les violences policières. Ça a pu créer aussi de la déception et potentiellement de l'attrait pour pas le Parti démocrate, donc Trump. Mais focaliser sur cette partie de l'électorat pose plusieurs problèmes. D'abord, les désigner comme responsables de la défaite des démocrates, c'est en faire des boucs émissaires, alors que par exemple, les femmes blanches ont aussi voté pour Trump à 53%. Et cela invisible également le fait qu'au sein de cette communauté, la part des indécis, indécises ou de celles et ceux qui votent pour les candidats et candidates indépendants a augmenté. Mais également qu'à côté de ça, une écrasante majorité des électrices et électeurs africains-américains restent démocrates, 85% contre 41% de l'électorat blanc. Pourtant, la question raciale a bien été présente dans la campagne de Trump. Et depuis une quinzaine d'années, à la faveur du mouvement Black Lives Matter, on assiste à une résurgence de ces questions dans le débat public aux États-Unis. Les saillies racistes de Donald Trump sont super régulières. Alors, par exemple, en 2015, il disait que les Mexicains étaient des violeurs. En 2018, il surnommait Pocahontas une sénatrice démocrate qui revendiquait des origines Cherokees. La mise en avant de son identité politique blanche, c'est pas une nouveauté. Par exemple, en 2020, sur Twitter, il montrait une vidéo des opposants au mouvement Black Lives Matter en hurlant White Power. Voilà, c'était déjà une tendance de fond chez les conservateurs du Tea Party, un mouvement d'inspiration libertarienne né au début de la présidence Obama qui protestait contre l'augmentation des dépenses publiques, notamment contre le système de protection sociale. Donald Trump a continué à tenir des propos racistes, y compris à l'encontre de sa rivale Kamala Harris, dont il a mis en doute l'identité raciale. Avant même sa candidature officielle en juillet 2024, le genre de la vice-présidente était aussi un angle d'attaque, parce qu'il a dit par exemple qu'elle était stupide, elle avait un faible QI, elle était paresseuse et folle, bien sûr. Alors dans quelle mesure le bilan aussi du mandat Biden-Harris peut aussi dans une certaine mesure expliquer la défaite de la candidate démocrate ? Lors de la présidentielle de 2020, en pleine affaire George Floyd, les militants et militantes du mouvement Black Lives Matter avaient soutenu le Parti démocrate de façon massive dans l'espoir de voir progresser la justice sociale et raciale. Joe Biden et Kamala Harris promettaient à l'époque la fin des institutions... des injustices, pardon. Ça, l'absurde du jeu.
Ça aurait été marrant.
On n'avait pas compris. La fin des injustices, non pas des institutions. Des injustices structurelles. Et 4 ans plus tard. Quatre ans plus tard, leur bilan est catastrophique. Le nombre de personnes tuées par la police n'a jamais été aussi élevé. Le budget des forces de l'ordre a explosé. Les projets de construction de centres d'entraînement pour policiers en plein cœur des villes se multiplient. Et l'abolition de la peine de mort a été retirée du programme démocrate. Alors certes, Derek Chauvin, le policier responsable de la mort de George Floyd, a été condamné, et ça c'est historique. Mais ça n'a pas suffi, évidemment, à gommer l'image d'un mandat très favorable à la police. Par ailleurs, même si elle se dit choquée par le sort des civils palestiniens et palestiniennes, le soutien de Kamala Harris à Israël dans sa guerre contre Gaza et le Liban a sidéré une grande partie de la population américaine, notamment des jeunes, des étudiantes, etc., les arabes américains, américaines, ou encore de nombreux juifs et juives. En fin de compte, Joe Biden et Kamala Harris ne sont pas contre les institutions. Ils ont donné l'image de dirigeants et dirigeantes indifférentes aux violences subies par les personnes noires et racisées. Donc ce n'est définitivement pas de eux ni de leur parti que viendra la résistance face à Trump. On imagine bien que ça viendra du terrain, des militants, militantes, les organisations de défense des droits civiques et les héritages du mouvement Black Lives Matter. Et eux auront un vrai rôle d'opposition sur le terrain.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc là, dans la rubrique nucléaire, je vais finir par créer une sous-rubrique qui va s'appeler l'EPR. Donc je vais vous donner des news plus, un peu de l'EPR, vu qu'il est censé un peu fonctionner. Donc je me suis dit, tiens, je peux en donner un peu tous les mois. Donc là, faut savoir que c'est pas facile d'avoir des news de ce qui se passe dans cette cocotte minute. À tel point que pour glaner un peu des informations, certains sont obligés de se farcir des pots de départ de directeur de projet de PR pour un peu savoir un peu où ça en est.
Sympa tes soirées.
On est obligé de manger des petits fours pour avoir des informations, c'est ça. Oui, c'est pas si grave. Hein.
Du coup, en fait, évidemment, c'est pas moi qui me suis farci le pot de départ de Alain Morvan, donc, qui était le directeur du projet de PR depuis 2019, et qui du coup a déclaré dans son pot de départ que qui avait lieu le 24 octobre dernier, que le réacteur en était à 9% de puissance, donc dans la divergence. Donc on fait waouh. Voilà. Donc du coup, c'était l'ancien directeur et il y a eu 5 directeurs quand même sur ce projet qui se sont succédés. Donc voilà. Donc on est a priori on est à 9%. Donc la divergence, je rappelle, a commencé le 3 septembre après une attente de 12 ans. 20 milliards d'euros et du coup 5 directeurs.
La divergence, c'est pas une maison d'édition anarchiste, hein, c'est
tout à fait
le démarrage de la centrale.
Ne nous trompons pas sur sa signification.
Ils sont contre les institutions EDF aussi, attention.
Mais voilà, ouais. Mais tout le monde en fait.
C'est incroyable, on a gagné en fait.
Le Canu Info a gagné.
Tout à fait. La réalité naît du Canu Info. Du coup, donc, on se dit, le 24 octobre, on devait être à 9%. Ok, mais que lit-on sur la maigre page de suivi des actualités réglementaires, hein, comme ils disent, sur le site internet de Flamanville, puisqu'ils ont un site internet. On lit que le 22 octobre, il y a eu une défaillance des, je cite le nom du truc, hein, donc une défaillance des lignes de défense ayant conduit à la convergence non prévue du réacteur. Ah, je vois que ça a capté votre attention.
Sans les explications.
Je vois que ça a capté votre attention. Alors bon, je vous passe un peu la novlangue de ce titre absolument lunaire. Donc, la com d'EDF étant ce qu'elle est, pas facile de comprendre exactement ce qu'il s'est passé, mais on devine que le 22 octobre, le réacteur était au moins à 10% et qu'a priori, une dilution en eau borée dans le circuit primaire était prévue, parce que c'était à 10%. Donc je rappelle, l'eau borée, ça permet de réguler la réaction nucléaire. Donc au bout d'un moment, on commence un peu à en mettre pour éviter que ça s'emballe trop. C'est un moyen de contrôle. Mais là, patatras, une fois n'est pas coutume, une opération erronée, comme ils disent, a conduit à une injection plus importante en eau borée. Et qu'est-ce que ça fait, une injection plus importante en eau borée? Eh bien, ça fait que la puissance diminue. Effectivement, on pourrait même aller jusqu'à un arrêt du réacteur, éventuellement. Mais eux, en tout cas, c'est ce qu'ils appellent la convergence du réacteur, à l'inverse de la divergence, bien sûr. Donc, on ne sait pas trop pourquoi y a eu cette erreur-là. Alors moi, je trouve que ça sent encore la procédure pas claire, ou éventuellement un problème de tuyauterie ou de vanne dont EDF a une très grande maîtrise. Pour autant, EDF rassure en concluant que je cite, « des analyses ont immédiatement été entreprises, ouf, et que la divergence, encore plus ouf, que la divergence du réacteur a été relancée quelques heures plus tard. » Donc, on est rassuré. Du coup, Alain Morvan a échappé un peu au pire hein, dans ce plot, parce qu'il a très bien pu annoncer 0% de divergence si le réacteur avait
été... Ça aurait plombé l'ambiance du pot de départ, là.
Donc voilà, donc c'est redescendu un petit peu, c'est pour ça qu'il a annoncé 9. Mais la grande question, c'est qu'en est-il en ce jour du 8 novembre ? Eh oui, alors en fait, j'en sais rien, mais on pourrait penser au moins que la divergence est à 9%. Dans tous les cas, on se rapprocherait du fameux palier des 10%. Alors, je dis fameux palier, pourquoi ? Parce qu'en principe, à 10%, l'ASN doit venir faire coucou pour un peu check ce qui se passe et donner des autorisations pour poursuivre les opérations, idem à 25%. Donc voilà, comme c'est difficile d'avoir des infos, on ne sait pas trop ce qui s'est passé depuis ce fameux pot. Alors peut-être qu'il y a eu de nouvelles surprises. Généralement, on le sait pas tout de suite, on le sait quelques semaines plus tard. Du coup, ça, c'était pour un peu vous donner l'état actuel du réacteur dans la divergence. Et je voulais vous faire un petit point aussi sur au niveau des accidents. Puisque début octobre, j'avais fait un point là-dessus, on en était déjà à 12, qui avaient été remontés par la SN. Donc 12 tous de niveau 1. Alors niveau 1, c'est pas vraiment le premier niveau, contrairement aux chiffres annoncés. Le premier niveau, c'est 0. Et 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. 0, c'est le premier niveau. Donc il y a des incidents qui sont de niveau 0 et c'est des incidents. Bref.
C'est comme dans un immeuble, en fait, dans un ascenseur.
Voilà, c'est le rez-de-chaussée. Tout à fait. Mais du coup, ça minimise. C'est le rez-de-chaussée.
Ouais, je suis un bon élève. Ouais, je suis un faillot. Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est le rez-de-chaussée des accidents nucléaires. En tout cas, début octobre. Face à ces 12 accidents remontés par la SN, Grégory Heinfling, qui est le digne successeur de Alain Morvan à la direction du projet de l'EPR, et donc en digne successeur, lui, il avait déclaré que c'était tout à fait normal ces 12 incidents et que ben voilà, c'était normal, c'était un nouveau réacteur et que tout se passait très très bien malgré tous ces problèmes. Donc, depuis... Donc il y avait 12 incidents, depuis qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous dire. Il s'est passé une détection tardive de l'indisponibilité des diesels principaux. Donc ça qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, il y a eu un fil qui n'était pas branché. Et oui, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Bref, en tout cas, les moteurs diesel étaient non fonctionnels. Et c'est utile pour une centrale en cas de coupure générale d'électricité, parce que ça a besoin d'électricité, une centrale. Il y a eu une indisponibilisation, attention, de l'appoint à la piscine du bâtiment combustible. Alors ça, voilà, on arrive sur les fameux problèmes de vanne, puisque c'était un problème de vanne. Vanne qui était consignée alors qu'elles auraient dû être ouvertes. Alors une vanne consignée, ça veut dire qu'elle est sécurisée pour une intervention, et du coup ça bloque la vanne en gros, donc c'est un peu comme si la vanne était fermée, on va dire. Et puis le problème, on apprend d'ailleurs que le problème a eu lieu le 9 septembre mais s'est reproduit le 9 octobre. on se rassure parce qu'une analyse est en cours selon EDF. Ensuite, il y a eu aussi un non-respect des conditions initiales d'un essai sur le système de production d'eau à incendie. Donc ça, c'est encore une histoire de vanne qui, pour le coup, n'était pas fermée sur les systèmes d'eau à incendie. Alors, le contexte est un peu rigolo, car c'est un incident qui est survenu lors de la préparation à une inspection de l'ASN. Oui, parce qu'il faut savoir que l'EDF sait quand l'ASN va faire une inspection. Voilà. Donc,
et là, ça change quand même l'enjeu. Quoi.
Et là, ça fait un peu cliché parce qu'on se dit, ils savent que l'ASN arrive, donc ils rangent, ils clean un peu. Et là, pour le coup, ils répètent des procédures peut-être qu'ils ne font jamais et du coup, ils s'aperçoivent que ça foire. En tout cas, heureusement pour nous, ça permet quand même qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, et il y a eu aussi l'amorce d'un repli de réacteur non consenti. Alors le non consenti, c'est moi qui l'ai ajouté pour compléter la novlangue de EDF. Donc ça veut dire non maîtrisé, évidemment. Et ça, c'est encore un problème de vanne qui se mélange à un problème de procédure. Puisque les critères qui définissent la disponibilité des vannes décrits dans la procédure étaient imprécis. Et du coup, en fait, ils pensaient que ça marchait pas, mais les vannes étaient réellement disponibles au final. Donc voilà. Et juste pour les personnes qui nous écoutent sur le repli du réacteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, ça veut dire abaisser la température et la pression du réacteur. Donc c'est quand même le mettre en état de d'arrêt, enfin amorcer un arrêt. Ça pourrait aller jusqu'à l'arrêt. Et puis, le dernier, c'est la fameuse défaillance des lignes de défense ayant conduit à la convergence non prévue du réacteur. Donc voilà, tout ça, c'était un peu entre début...
Ce mois-ci, quoi.
Voilà, c'était les dernières news de ce mois. Donc là, si vous avez compté, on est maintenant à 17 incidents au niveau de l'EPR, mais en croix EDF, tout se passe extrêmement bien. Voilà, c'était pour les petites news.
Et moi, je voulais parler de d'automobilistes. Bon, c'est pas du tout une nouvelle qui est récente, parce qu'on s'en rappelle, c'était il y a deux semaines, le cycliste qui était mort à Paris, qui s'est fait écraser par un gars qui n'avait pas trop aimé qu'on lui tape sur sa voiture et tout ça. Bon, je crois que c'est une enquête qui est en cours. En fait, c'était la deuxième personne qui était en vélo qui a été tuée depuis le début de l'année à Paris. Et en fait, ces deux morts-là, qui sont deux morts de trop, mais en fait, elle raconte aussi autre chose, parce que c'est pas vraiment seulement un accident, il y a aussi une histoire d'angle mort ou tout ça, mais aussi ce que ça illustre, c'est que les hommes sont largement majoritaires parmi les automobilistes impliqués dans des chocs, qu'il s'agisse d'accidents légers ou qui entraînent ou la mort, ou que ce soit plus grave. Et selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, en 2020, il y a un peu plus de 90% des accidents recensés à Paris qui impliquaient des hommes. Et les chiffres sont à peu près pareils au niveau national, à tel point qu'en 2019, le ministère de l'Intérieur, même lui, avait lancé une campagne nommée « Femmes au volant, vie au tournant » pour montrer que les femmes causent à kilomètres parcourus équivalent beaucoup moins d'accidents corporels et meurent moins sur la route. Les hommes comptaient ainsi pour 84% des responsables présumés d'accidents mortels cette année-là, et 91% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel étaient des hommes. Autre chiffre, quand les femmes meurent sur la route, elles ne sont que 43% à être au volant. Donc en fait, elles courent le plus de risques quand elles sont passagères, piétonnes ou cyclistes. Tout ce que ces chiffres disent aussi, c'est que d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a un espèce de masculinisme automobile, une culture qui permet la violence routière et que peut-être faut questionner, parce que quand même, c'est commis très majoritairement par des hommes. Alors sur les chaînes d'infos, il y a tous ces trucs un peu anti-cyclistes aussi, que les cyclistes n'ont qu'à pas griller les feux et que tout ça, et qu'il n'a qu'à pas taper sur sa voiture, machin. Tout ça, c'est quand même pour pas voir un problème qui existe pour ne pas soulever le truc de la culture de la voiture toute puissante et les gros SUV partout, que même Emmanuel Macron, il avait méga adoubé en 2023, il avait même dit que lui, il aime la bagnole, il l'adore. Et après, y a plein de pubs pour les SUV, où par exemple, il y a une grosse BMW où c'est marqué « chef de meute », ou encore « 1000 pouvoirs, 0 devoir ». Enfin voilà. C'est pas très très intéressant ce que je raconte, c'est juste, je suis arrivée, je me suis insultée par un mec en voiture, et je me suis dit « vas-y, ça m'énerve », voilà, donc je vais dire ça. donc je vais enfoncer des portes ouvertes. En tout cas, s'il y a des gens volants actuellement, faites attention aux piétons, aux piétonnes et aux vélos et tout ça.
Je me permets une petite précision statistique sur ce que tu as dit, c'est qu'en plus 90% donc des automobilistes qui ont des accidents responsables sont des hommes, mais par ailleurs c'est pas une raison qui découle du fait qu'ils parcourent plus de kilomètres, parce qu'en fait le nombre de kilomètres parcourus à l'année est schématiquement à peu près le même entre les hommes et les femmes. Par contre, les motifs sont pas exactement les mêmes, puisqu'on retrouve beaucoup les femmes au volant lorsqu'il s'agit de trimballer les gamins d'une activité à une autre, de les emmener à l'école, etc. Elles sont souvent plus sur des moments plus contraints. C'est pas du tout lié au kilométrage. On aurait pu essayer de tenter ça comme défense, mais ça marche pas, c'est vraiment juste du masculinisme. Salut.
Canu Info du vendredi. Rubrique santé, handicap.
Les patients, ils manquent de plein de choses, ils manquent de soins, ils ne peuvent pas leur offrir le temps nécessaire à leur bien-être.
plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris pour demander une vraie individualisation de l'allocation adulte handicapé.
C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure.
Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades.
It's basic truth of the human condition. Everybody lies.
Hello. I'm the doctor. Basically, run.
Et dans ce petit jingle, il y a quelqu'un qui dit « Everybody lies ». Et donc, on va pouvoir se poser un peu la question, notamment de la désinformation. Mais on va la prendre selon un angle singulier à partir d'un texte publié aujourd'hui sur le site rebellion.info par un collectif qui s'appelle « Les Canards Masqués » qui tient une chronique mensuelle qui s'appelle « À ta santé, camarade ». Et cette semaine, eh bien, le titre de la chronique, c'est « Covid et Sida, mutualiser les luttes pour la santé publique ». Et je vais vous en faire une lecture un peu abrégée parce que le texte est plus long, mais je vous encourage à aller voir le reste sur https://rebellion.info. Dans le monde de celles et ceux qui ont conscience des dangers du Covid, c'est-à-dire pas grand monde, il n'est pas rare de lire ou d'entendre des comparaisons entre Covid et Sida, et ces comparaisons se fondent sur les points communs entre les virus du SARS-CoV-2, puisque c'est le nom du virus qui donne le Covid, et du VIH, qui est le virus qui donne le Sida. Donc sur les points communs entre ces virus, sur leurs effets sanitaires, sur les caractéristiques des deux épidémies et sur les combats politiques qu'elles ont fait émerger. Alors ces comparaisons, elles sont parfois assez stimulantes, elles sont parfois malheureusement un peu simplistes, et donc les canards masqués font le point sur ce parallèle qui est quand même assez intéressant pour comprendre un certain nombre de choses. En fait, sur le plan épidémiologique, les virus à l'origine du sida et du Covid ont plus de points communs qu'on ne voudrait le croire ou qu'on voudrait nous le faire savoir, et en particulier ce sont tous les deux des virus qui touchent tous les organes et qui attaquent le système immunitaire des personnes infectées. Alors dans le détail, parce qu'il n'y a pas que la rubrique nucléaire qui a le droit d'utiliser des mots compliqués, les deux virus partagent le même déclencheur de destruction des lymphocytes. Donc les lymphocytes, bien sûr, vous le savez, ce sont les globules blancs qui servent à la défense de l'organisme. Cette similitude dans la destruction des lymphocytes, elle explique pour partie les formes longues du Covid. En fait, les lymphocytes continuent de dysfonctionner pendant 2 ans après une contamination au Covid. Enfin, on a aussi des études qui suggèrent que le SARS-CoV-2 provoque la mort cellulaire programmée de certains lymphocytes T, donc du système immunitaire, donc en fait, fragilise définitivement le système immunitaire. Et ça, c'est exactement aussi le même procédé que ce qui se passe avec le VIH, et qui a donné d'ailleurs son nom au SIDA, hein, qui est sur la question des défenses immunitaires, qui intègre dans le nom. Dans l'épidémie de sida, comme celle de Covid, il y a d'autres points communs. Le dépistage précoce constitue un outil essentiel pour empêcher la transmission et permettre une prise en charge rapide. L'absence de prévention et de traitement, elle peut mener dans les deux maladies à la mort. Donc quand même, hein, les maladies liées au VIH ont encore causé 2,6 millions de décès de 2020 à 2023, donc ça fait à peu près 700 000 décès par an dans le monde. La majorité de ces décès, ils ont lieu en Afrique, puisque c'est aussi très inégalitaire du point de vue de l'accès au traitement. En France, les personnes qui continuent à mourir du sida sont majoritairement des femmes hétérosexuelles, donc on va pouvoir ensuite parler de l'image de la maladie, mais c'est assez éloigné, très souvent originaire d'Afrique subsaharienne, âgée de 60 ans en moyenne. Sur la même période, le Covid, lui, a causé, donc entre 2020 et 2023, 35 millions de morts, ce qui inclut les décès directs dus à l'infection lors de ce qu'on appelle les formes aiguës, comme les décès qui résultent de Covid long. Alors du côté de la prise en charge politique et sociale des deux maladies, on retrouve aussi des points communs puisque la catégorisation de certaines franges de la population comme vulnérables, alors dans un cas ce sont les hommes gays et les consommateurs et consommatrices de drogues injectables hein, dans le cas du VIH, et dans l'autre cas du Covid, bah, c'est plutôt les personnes âgées et immunodéprimées, a fabriqué en fait un sentiment d'invulnérabilité absolument erroné dans le reste de la population. En fait, on a fabriqué des invulnérables qui sont très vulnérables, et ce sentiment d'invisibilité des hétérosexuels par exemple vis-à-vis du sida, ou des personnes sans comorbidité, puisque c'est le terme qu'on utilise maintenant, vis-à-vis du Covid, ont très largement contribué au déni de la maladie, un déni largement encouragé par les gouvernements occidentaux, et notamment ce que ça a conduit, c'était le refus de la prévention. Et donc cette comparaison, elle peut paraître un peu particulière là, mais la capote, en son temps, en fait, elle a provoqué une levée de bouclier similaire, si ce n'est nettement plus forte que le masque, et il faut quand même rappeler, parce que c'est très récent, que l'interdiction de la publicité pour le préservatif n'a été levé levé en France qu'en 1986, et ce, après 10 ans d'un long travail militant d'éducation et d'acceptation des militants du sida. Dans le cas du sida comme du Covid, l'opinion sanitaire, en fait, elle est faite par les dominants et les dominantes, hein, les homophobes et les sérophobes dans un cas, les covido-négationnistes et les validistes dans l'autre, ce qui a favorisé aussi d'autres clichés qui sont assez communs, notamment dans les deux épidémies, la dissémination de théories racistes sur l'origine des virus, hein, donc notamment négrophobes pour le sida et sinophobes pour le Covid, et puis le foisonnement de supposés traitements alternatifs de la part de milieux complotistes et pseudo-scientifiques qu'on a vu apparaître dans les deux cas. La réticence à la réduction des risques dans le cas du Covid reprend par ailleurs hein, des fragments de discours qu'on fait long feu, qu'on a déjà connus. Hein. C'est strictement les mêmes mecs qui n'arrivent pas à être en érection avec une capote, qui n'arrivent désormais pas à respirer avec un masque. Hein. C'est exactement la même chose. Quant à l'accessibilité des seringues, bah, la question elle reste ouverte. On en a déjà parlé ici il y a quelques années, mais du coup, ça reste un vrai problème qui continue de se heurter très violemment au mur de la toxicophobie. On le voit à chaque fois qu'il y a des débats sur le sujet, ils sont complètement lunaires, notamment à l'Assemblée. Plus largement, l'indifférence quasi générale au sort des autres relève d'un eugénisme de privilégié vis-à-vis de populations fragiles, vulnérables, considérées comme dispensables et dont la santé ou la survie ne mérite finalement aucun effort, aucune disposition. Et dans les deux cas, en fait, il est attendu de ces populations surnuméraires qu'elles arrêtent de vivre, hein, puisqu'en résumé, il était quand même attendu des transpédéguines d'arrêter de l'être, hein, il fallait arrêter d'être pédé pour arrêter d'avoir le sida schématiquement, tandis qu'aujourd'hui, on demande aux personnes âgées, aux immunodéprimées ou aux handicapés, eh bien, de rester, d'arrêter de casser les pieds et de rester bien sagement dans leur logement. Et en réponse à cet abandon généralisé, ce sont des militants et militantes isolés, y compris isolés dans le camp des luttes, qui auto-organisent la prévention, produisent de l'information à partir de connaissances scientifiques et des avancées de traitement. Peu nombreux, ces militants et militantes crient dans le désert, passent pour des fanatiques. Avant, c'est avéré pour le sida, on peut l'espérer pour le Covid, que leurs demandes ne deviennent finalement des fondements de la santé publique. Alors cependant, là j'ai dressé un certain nombre de parallèles hein, qui viennent du papier. Le papier précise aussi que ces différences entre les deux épidémies, elles ne manquent pas. Et évidemment, elles doivent être prises au sérieux. En premier lieu, évidemment, les modes de transmission n'ont rien à voir. Se battre contre une épidémie qui se transmet par l'air partagé n'est pas identique au fait de se battre contre une maladie transmissible sexuellement, transmissible in utero, c'est-à-dire si une personne est enceinte, et par injection ou par transfusion. Pour le Covid, eh bien le risque est présent constamment dans tous les espaces du quotidien, ce qui impose de bâtir des solutions collectives, donc assurer une bonne qualité de l'air, hein, principalement, et ça fragilise quand même les seules mesures de prévention individuelles, notamment le masque porté unilatéralement, qui est assez peu efficace. Pour le sida, au contraire, en fait, les outils personnels comme le préservatif, les seringues à usage unique ou la PrEP se montrent absolument essentiels, donc on voit bien qu'on n'a pas les mêmes outils par rapport. La perception de la maladie par le grand public, c'est aussi pas du tout la même, et c'est important de le prendre en charge, hein, puisque l'homophobie structure absolument totalement la perception du sida, des malades et aussi des conséquences sur les proches des personnes qui décèdent hein, dans les années 80, c'était quand même assez terrible. La lutte contre l'homophobie est en plus absolument inséparable de la lutte contre le sida. En fait, parce que la lutte contre le sida, en fait, elle a été menée au cours des années 1980-1990 par une communauté LGBT, et elle s'est poursuivie ensuite, la lutte, plutôt sur des enjeux hors santé, hein, ce sont notamment les mêmes personnes et les mêmes collectifs hein, qui ont ensuite porté des combats sur la question de l'homophobie, notamment sur le PACS, et puis sur le mariage. Plus globalement, les systèmes d'oppression ne sont pas exactement interchangeables, c'est important de le prendre en compte, hein. L'homophobie et la toxicophobie ne sont pas des oppressions identiques au validisme et à l'agisme, et si les deux épidémies frappent des personnes en situation de vulnérabilité sociale, ces oppressions ne portent pas la même charge morale, hein, puisque la lutte du VIH-SIDA notamment a pu se développer car elle a été prise en charge par des groupes gays et lesbiens qui partageaient déjà une marginalité politique et des habitudes d'organisation collective lorsqu'ils ont été frappés de plein fouet par l'épidémie. Et en fait, ça a facilité à la fois la politisation du sida et les actions du soin communautaire au sein de la communauté LGBT. Et à ce stade, aucune communauté politique ne s'est emparée du Covid, donc la politisation de l'épidémie patine. Donc malgré et avec ces spécificités, hein, il faut s'appuyer sur elles, les deux luttes peuvent se rejoindre dans la nécessaire défense d'une politique de santé publique orientée vers la prévention, la réduction des risques, l'autodéfense sanitaire, la recherche de traitements. Pour le plus récent, on peut prendre par exemple un exemple français, hein, parce qu'il y a aussi des exemples internationaux, le travail conjoint des associations Winslow Santé Publique, on vous a diffusé la semaine dernière un entretien avec une personne de cette association, et d'ACT UP Paris, hein, donc une association aussi centrale de la lutte contre le sida. Et bien ACT UP Paris et Winslow Santé Publique ont mené ensemble la rédaction d'une synthèse sur les avancées de la recherche en matière de Covid 4 ans après le début. Un texte qui s'appelle 65 millions de Covid longs, et ça continue, et qui a été un petit peu dans son titre remis en cause, puisque quelques jours après, une étude a montré qu'il y a 400 millions de personnes au monde qui sont atteintes de Covid long. Donc on repassera pour les faux virus de l'hiver. Un des axes possibles de lutte commune, c'est la mutualisation d'outils et de pratiques de réduction des risques. Faire front pour l'autodéfense sanitaire et la réduction des risques permet entre autres de prendre acte que rien n'est jamais acquis et de grossir à les rendre la lutte pour la santé publique dans le contexte de destruction du système de soins. Quand je dis rien n'est jamais fini, en témoigne par exemple le recul de la protection contre les infections sexuellement transmissibles en France. Hein, les études récentes, elles montrent quand même un net recul assez inquiétant. Et donc bâtir un réseau structuré d'autodéfense sanitaire et de santé communautaire permettrait, dans un contexte quand même hautement fascisant, d'assurer l'accès à l'information, au dépistage, aux protections et au traitement de l'ensemble de la population. Alors, le dépistage, par exemple, on est en train de le casser pour le Covid, puisqu'il y a un amendement qui a été passé, un décret qui a été passé cette semaine qui va dérembourser les PCR Covid. Donc, vous ne pouvez plus avoir de preuves que vous avez été contaminé. C'est une des manières de fabriquer du déni et de l'oubli. Hein. Etc. Donc il y a pas mal de cas, notamment de lutte en commun entre les militants de la lutte contre le Covid et les militants de la lutte contre le sida, et notamment internationaux, qui sont listés par les canards masqués sur le papier produit par rebellion.info. Je vais pas les lister, mais en tout cas les deux luttes démontrent amplement qu'il faut sortir de la représentation quand même dominante aujourd'hui de la santé comme un capital individuel à préserver seul, et la penser comme une interdépendance qui nécessite une attention collective. La santé de chacun, chacune, est la santé de toutes et tous. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de Covid. Je recommande chaudement la lecture de tous les textes des canards masqués, et en particulier de celui-là, qui permet quand même de comprendre sans doute aussi pourquoi des gens continuent de s'agiter sur cette question et de ne pas laisser tomber. Voilà. J'ai pas de chute.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine. Mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, quoi faire cette semaine ? Dès demain, malheureusement, Netanyahou est toujours là. Il continue d'assassiner des personnes de façon quasi industrielle. Et donc, comme chaque semaine, il y a un rassemblement. C'est à 15h, c'est Place Bellecour. Stop génocide en Palestine, stop à l'agression au Liban. Ensuite, vous pourrez vous rendre au café. C'est le Café Libertaire, c'est la plume noire qui organise ça. Donc il y a une discussion à partir de 17h autour du thème « Quelle stratégie politique pour les LGBTI ?» Et puis le soir, vous aurez certainement envie de faire la fête si vous êtes en forme, en tout cas c'est samedi soir, et vous pourrez aller au Toy Toy pour OK To Be Our Fest, qui est un concert avec 4 artistes locaux. J'ai pas la prog exacte, mais il y aura du pop rock, du punk et plein d'autres trucs, j'imagine. En tout cas, c'est surtout que c'est organisé par le collectif Solidarité Femmes à la rue, dont on vous parle assez régulièrement ici, et du coup ça leur permettra d'être soutenus et certainement de récupérer un peu de thunes, ce qui est jamais inutile. Dimanche, si jamais vous êtes stéphanois ou stéphanoise ou que vous aimez bien aller à Saint-Étienne, il y a des rencontres antimilitaristes à la MJC des Tilleuls. C'est à partir de 10h et jusqu'à 22h. Et ça c'est toujours dimanche, soutien au peuple palestinien et libanais, donc avec une cantine, une projection, des discussions et DJ set. Cette fois c'est à partir de midi et c'est à Grande Zéro. Le mardi 12 novembre, puisque le lundi c'est plutôt petit repos, mais le mardi vous pourrez aller à l'Amicale du Futur pour la soirée Lyon Info Migration. Il y a la projection du documentaire Alliance Terrestre sur la lutte contre l'A69, ça c'est à 19h30 et c'est à la Maison de l'Écologie. Et enfin, ça c'est mercredi 13 novembre, et des ateliers d'éducation populaire sur le sentiment d'illégitimité, pardon, et c'est à partir de 19h à l'atelier des canulars.
Radio Canu!
Canu Info du vendredi.
Ah là là, que de faux raccords.
En fait, c'est parce que c'est pas facile. Il faut quand même qu'on révèle un petit peu l'envers du décor. C'est-à-dire qu'ici, notre ami qui a la technique, là, présentement, est obligé de prendre les appels nombreux. Les personnes qui veulent dire ce que veut dire ACAB, parce qu'on ne sait toujours pas, malgré le fait que c'est écrit sur tous les murs. Et aussi un petit peu tagué dans la radio, il faut quand même bien le dire. Et du coup, c'est quand même pas simple de tout faire en même temps, de prendre les appels, de répondre, d'essayer d'être poli des fois, de prendre les SMS qui arrivent nombreux. Donc, c'est pas simple.
Mais du coup, ça veut dire quoi, ACAB?
Alors, il y a un truc un peu, vous allez trouver ça un peu énigmatique, mais on va vous expliquer pourquoi après. Là, à CAB, il y a quelqu'un qui nous a appelé un peu en urgence en disant vite, achète un casque anti-bruit.
Oh.
Et apparemment, une autre personne qui n'est pas pour acheter des casques anti-bruit nous a dit allume Canu, attention au black metal.
Ah, mais alors ça, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive bientôt?
Ben, c'est la grande.
Et oui, c'est votre émission de Klezmer. Et alors, on nous a chuchoté qu'ils aiment vraiment ça. Et du coup, ils en ont fait 599 à ce jour. Et du coup, la 600e. Alors, ils font pas toutes les semaines, parce que finalement, c'était le 6 mai 2022, la 500e. Mais en tout cas, il y a la 600e de pollution bruit qui vient pas plus tard que maintenant, finalement.
Ils sont déjà dans les starting
blocks. Ils sont en train de s'installer, ils n'ont pas le temps de dire bonjour.
Ce soir, si vous n'avez pas acheté de casque anti-bruit, vous allez avoir 4 heures de métal sur Canu.
Waouh!
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
C'est pas rien en tout cas.
Et ben voilà, nous en tout cas, on se retrouve pas plus tard que vendredi prochain. D'ici là, bonne émission de métal, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine.
Yes,
salut. Ciao.